Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On s'intéresse aujourd'hui aux solutions qui existent pour venir en aide aux personnes en situation de handicap et à leurs familles avec la Fondation Marie-Louise à Toulouse. Elle dispose de 6 établissements en Haute-Garonne et se lance un nouveau défi, vous allez l'entendre, avec l'agrithérapie. Son vice-président David Cambon est notre invité. Il est aux côtés de Léa Chopin qui a porté le projet. Bonjour David Cambon.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. David, vous êtes vice-président de la Fondation Marie-Louise, mais aussi un des parents bénévoles de cette fondation. Qu'est-ce que Marie-Louise, qui est accueilli au sein de la Fondation ?
Alors Marie-Louise, peut-être avant de parler de qui est accueilli, de dire qui est Marie-Louise.
Oui, tout à fait.
Parce que souvent les gens se posent qui est Marie-Louise, et ça permet d'ailleurs de comprendre, quand on a compris qui est Marie-Louise, toute la suite derrière. Marie-Louise, c'est une grand-mère. C'est une grand-mère, paix à son âme, mais qui, pendant de nombreuses années, tous les jours, allait chanter des chansons à sa petite fille, Anne, paix à son âme aussi. Et c'était sa contribution. Alors, sa petite fille, Anne, qui était lourdement polyhandicapée, donc, dans le jargon, c'est-à-dire handicap sévère. Et cette grand-mère, elle assistait finalement indirectement à des discussions d'un groupe de parents qui, à l'époque, donc il y a 37 ans exactement, un groupe de parents qui refusaient un peu la fatalité des solutions qu'on envisageait pour leurs enfants lorsqu'ils seraient adultes. C'est-à-dire que la solution, je le fais très simple, c'était soit de les garder à la maison, et lorsqu'ils sont lourdement handicapés, la prise en charge au quotidien, c'est quelque chose d'éreintant, et finalement, à laquelle on n'arrive plus à faire face, ou alors l'hôpital psychiatrique. Et ce groupe de parents, à l'époque, donc, s'est dit, nous, c'est pas possible, c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants, et Marie-Louise, la grand-mère, entendait ces discussions et elle a dit à ses parents, et notamment à son petit-fils, qui était le président fondateur, « Mais moi, je vais faire don d'un terrain à Gratentour, au nord de Toulouse, 14 000 m² à Gratentour, et vous construirez cette maison. »
Et c'est ainsi qu'est née donc la Fondation Marie-Louise. Aujourd'hui, c'est 6 établissements. 6 établissements en Haute-Garonne.
Haute-Garonne, oui, nord-ouest toulousain, exactement, ouais. Pour être précis. C'est 272 résidents exactement et 300 salariés.
300 salariés, voilà. Ouais.
Et un spectre dont le spectre du handicap, un handicap quand même assez sévère. Voilà. Souvent aujourd'hui, on entend parler par exemple d'autisme Asperger. Nous, on n'est pas dans ce champ-là. C'est handicap sévère et d'où l'histoire avec dont je parlais tout à l'heure.
Handicap moteur pour la plupart des résidents.
Mental. Et psychique dans certains cas aussi.
Donc, une fondation, David, c'est aussi une entreprise.
Alors nous, on le dit souvent, quand on en parle entre nous, c'est une PME du médico-social. Tout à l'heure, j'ai parlé de 300 salariés, donc au même titre qu'une PME, le code du travail, toutes les contraintes, santé, sécurité, code du travail, contrat de travail, enfin bref, tous les gens qui côtoient ce monde-là, oui, c'est une PME du médico-social, Marie-Louise.
Alors vous êtes vice-président, vous êtes bénévole. C'est-à-dire que Marie-Louise fonctionne donc avec des salariés qui sont du personnel encadrant, spécialisé, mais il y a énormément de bénévoles et la fondation ne pourrait pas fonctionner sans ces bénévoles.
Elle ne pourrait pas fonctionner. Alors peut-être donner un peu de contexte. Alors Marie-Louise, c'est une fondation gestion privée à but non lucratif. Mmh. Ça signifie quoi en fait ? C'est-à-dire que pour tout ce qui est... la prise en charge du quotidien, tout le plateau technique, voilà, c'est le mot que je cherchais, tout le plateau technique, c'est-à-dire médecins, infirmières, éducateurs, AMP, nous recevons ce qu'on appelle un prix jour par résident, ou de l'ARS ou du conseil départemental. Donc ça, c'est la dotation socle. Et après, Marie-Louise et tout son réseau de bénévoles, avec son réseau, toute l'énergie qui est alimée, et des donateurs aussi, parce qu'il faut dire, on a des donateurs. Mais je le dis souvent comme ça. Alors, je suis Aveyronnais. On va dire que l'État nous donne de quoi payer les pommes de terre. Et nous, Marie-Louise, la Fondation, on fait en sorte d'acheter la tombe pour faire de l'aligot, parce que l'aligot, c'est quand même meilleur que les pommes de terre. Voilà, si je peux l'expliquer comme ça.
Ouais. Quel est votre quotidien, vous, en tant que vice-président ? Vous êtes papa également d'un enfant qui est accueilli à la Fondation ?
Alors, je suis papa, oui, d'un résident qui est accueilli à la Fondation. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, cette notion de bénévolat, peut-être rapidement, aujourd'hui, avec un bureau de la Fondation, un conseil d'administration de la Fondation, où ne siègent vraiment que des bénévoles. Alors, des parents bénévoles, tout à l'heure, on en parlait. Alors, nous sommes parents que nous mobilisions pour nos enfants, c'est un peu normal. Et après, tout un autre profil de bénévoles qui, eux, amènent leurs compétences, leur temps, leurs convictions, à faire en sorte que en fait, c'est un outil de gestion, la Fondation. Il faut le comprendre en tant que tel, comme un outil de gestion. D'ailleurs, à ce titre-là, nous sommes potentiellement auditables par la Cour des comptes, ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe quoi. Et pourtant, donc, un outil de gestion dans lequel tous les gens qui amènent leurs compétences sont bénévoles. C'est peut-être une des singularités de Marie-Louise.
Alors, ça veut dire aussi qu'au sein de la Fondation, vous avez des projets, vous avez des envies. C'est ce qui explique votre présence aujourd'hui dans l'émission Le Goût d'entreprendre, puisque vous travaillez un peu comme une PME, vous le disiez tout à l'heure, et vous êtes en permanence en recherche de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'où la présence aussi de Léa qui est à vos côtés. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci Léa. Léa, vous êtes étudiante, enfin vous étiez ou vous terminez, vous êtes en 5e ou 6e année, c'est ça ?
Alors maintenant, du coup, je suis diplômée d'une école d'ingénieurs à Toulouse en agriculture. Ouais. Et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai pu participer au projet d'agrithérapie de la ferme thérapeutique de la Fondation Marie-Louise.
Alors l'agrithérapie, Léa, c'est vous qui avez porté le projet, quelque part. Vous allez pouvoir nous expliquer ce que c'est. Alors on connaît l'équithérapie, on se soigne grâce aux chevaux. On peut aussi, lorsque l'on est résident, par exemple, d'une maison de retraite, être accompagné par des animaux, chien, chat, lapin. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. L'agrithérapie, alors qu'est-ce que c'est ?
Du coup, l'agrithérapie comprend aussi la thérapie avec les animaux. Mais pour le comprendre de façon globale, en fait, c'est l'utilisation d'activités agricoles à des fins thérapeutiques. Mmh.
Donc, donnez-nous un exemple, Léa.
Sur la ferme, par exemple, les résidents qui sont accueillis pourront participer à des tâches en lien avec les animaux ou en lien avec les plantes, donc du jardinage, plantation, cueillette de fruits. Et en fait, la présence en contexte agricole et la participation à des activités de ce type ont... Et c'est démontrer des bienfaits thérapeutiques sur les bénéficiaires.
Alors où en est le projet aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Peut-être que David aussi, vous allez pouvoir interagir et répondre.
Alors la ferme existe depuis 2010, donc c'est depuis 2010.
Avec des animaux déjà ?
Oui, en tout cas c'est à ce moment-là que la ferme a ouvert à certains résidents de la Fondation Marie-Louise. Et là réellement, la Fondation a désiré développer ce modèle de ferme, car elle en a vu les bienfaits sur les résidents et sur les autres visiteurs qui venaient. Et donc, les aménagements qui vont être faits concernent à la fois les animaux, mais aussi le potager, la ferme de façon globale, pour qu'elle soit plus inclusive des résidents et qu'elle puisse accueillir une plus grande diversité de public.
Alors David, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un réel bienfait pour la santé mentale, voire physique aussi des résidents. Comment ils abordent en fait ce projet au travers des gens qui les accompagnent en fait, du personnel médical.
Et alors tout à l'heure, je crois que j'ai parlé du champ, du champ de la variété, comment dire, des différents profils de handicap qu'on avait à Marie-Louise.
Ouais, ouais.
L'idée, c'était vraiment ça quand on a lancé ce projet. C'est faire de ce lieu un lieu de mixité, justement, de la différence et du handicap. Et que quel que soit votre handicap, alors qu'il soit physique, mental ou psychique, vous en retiriez un bénéfice. Alors effectivement, comme le disait Léa, ça peut être, et je vais prendre des exemples très simples, un polyhandicapé qui est sur un fauteuil, qui ne marche pas, qui a des moyens physiques limités, on ne va pas le faire aller au jardin pour planter des fraises. Par contre, ne serait-ce que de se balader dans le sentier des senteurs qu'a imaginé Léa, ne serait-ce que d'aller toucher une feuille de thym, d'aller écraser une framboise et de la mettre sur la bouche.
C'est déjà beaucoup.
C'est du bien-être, du bien-être.
Ouais.
Et après, si je vais à l'autre extrémité du champ des profils qu'on a à Marie-Louise, où on a des résidents qui sont plus en capacité de verbaliser, de s'exprimer, et si sont un peu encadrés d'avoir des activités, mais de gratter un peu la terre, d'aller... planter des tomates, ramasser des tomates, d'aller cuisiner les tomates, après de comprendre ce rapport entre ce qu'on plante, ce qui pousse et ce qu'on déguste. Et on est même allé plus loin parce que l'idée après, c'est même d'avoir des ateliers sur le rapport à la nourriture, sur d'autres profils. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de cette mixité des différences. sur des personnes, par exemple, atteintes de troubles du comportement alimentaire. Et faire cohabiter tous ces profils-là, parce que quelque part,
ce sont
nos résidents qui en bénéficieront, et je vais le dire avec des mots peut-être assez triviaux, mais que les moins handicapés aspirent dans leur sillage ceux qui sont le plus handicapés. Si je prends l'exemple d'une jeune femme anorexique qui va venir un peu se régénérer à la ferme, ne serait-ce que d'aller promener en fauteuil, qu'elle reprenne confiance en elle, et de se dire que oui, finalement, je peux apporter plein de choses. Et faire en sorte que tous ces gens interagissent les uns avec les autres. Et cette agrithérapie, c'est un grand terrain de jeu, en fait, où chacun y trouve un intérêt.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet, vous, Léa ? Vous êtes directement concernée par le handicap dans votre entourage, ou vous avez vraiment, ou pas du tout, et vous avez vraiment adhéré à ce projet ?
Je ne suis pas tellement concernée par le handicap. J'ai juste mon grand-père, justement, qui était... prise en charge dans un établissement de la Fondation Marie-Louise. Mais sinon, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Ce qui m'a beaucoup séduit, c'est le côté social et bénéfique que peut avoir l'agriculture, ou en tout cas la prise en charge de personnes handicapées dans un contexte agricole. Et dès que j'ai mis les pieds à la ferme, j'ai pu me rendre compte du cadre agréable et apaisant qu'était la ferme et des bienfaits que ça pouvait avoir sur les bénéficiaires. Et même avant de commencer à faire des recherches et à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de recherches qui avaient été faites par des scientifiques sur les bienfaits justement de l'agriculture sociale, j'ai pu le voir directement, et c'est ça qui m'a beaucoup séduit. Et je me suis dit que c'était une opportunité incroyable pour des gens qui n'avaient pas forcément eu beaucoup de choses dans la vie, de pouvoir participer à des activités peuvent faire, et de pouvoir surtout être en extérieur, prendre l'air, être au soleil, être au contact des animaux. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu.
Elle en parle merveilleusement bien, David. Alors c'est aussi pour vous, la Fondation, de voir arriver des étudiants, une chance ?
Et c'est de parce que, alors, tout à l'heure, j'expliquais que Marie-Louise existait depuis 37 ans, mais l'avenir ne se devine pas, il se prépare. Et la nouvelle génération, parce qu'il y a la mienne, et il y a celle de Léa, et toutes les questions. Et comment Marie-Louise, en fait, finalement, l'enjeu au travers de la venue de Léa, comment Marie-Louise se réinvente, alors en gardant son histoire et sa singularité, mais comment Marie-Louise se réinvente, d'une part, pour continuer à répondre aux attentes des familles, parce qu'un des vrais enjeux, moi le premier, quand je suis arrivé à Marie-Louise, c'était l'avenir de mon fils. Donc aujourd'hui, c'est comment Marie-Louise continue de répondre à ces questions des familles, mais comment aussi elle s'adapte à la société, parce que la société, là, j'apprends rien à personne, elle a changé, elle a évolué, elle s'est transformée dans ses façons. On en parlait tout à l'heure avant l'émission sur le Covid, les questions qu'elle nous a amenées. Comment Marie-Louise est connectée à ce qui se passe, et comment elle apporte une réponse. Et comment elle apporte une réponse sur ce rapport à la nature dont parlait Léa tout à l'heure.
On va en reparler dans un instant, puis on va également parler de budget, parce que tout ce que vous mettez en place, tous vos projets, et ils sont nombreux, vous nous le direz dans la deuxième partie de cette émission. Forcément, il faut un petit peu d'argent. On en parle dans un instant.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Deuxième partie de cette émission, nous sommes en compagnie de Léa, qui était jusqu'à aujourd'hui stagiaire et qui intègre la Fondation Marie-Louise, Léa Chopin. Nous sommes également avec le vice-président de la Fondation Marie-Louise à Toulouse, David Cambon, c'est notre invité. Et Denis Abril vient de nous rejoindre. Denis, un de nos précieux référents pour le goût d'entreprendre. Bonjour Denis, la Fondation Marie-Louise, c'est inspirant comme modèle ?
Ah ben certainement, avec ce que je viens d'entendre. D'abord, bonjour quand même, Doris, David et Léa. J'ai envie de commencer par une question un peu personnelle, David. Donc, vraiment, vous êtes père d'un enfant qui est pris en charge par la Fondation Marie-Louise, mais vous êtes aussi un dirigeant. Comment vous faites le lien entre les deux, et est-ce que l'émotion forte est forcément d'avoir un enfant ici comment ça interagit avec votre responsabilité finalement de dirigeant de la Fondation ? Comment vous faites coller les deux ?
Alors, comment je fais ? J'ai fait coller les deux petit à petit. Effectivement, votre question, c'est l'essentiel de mon quotidien. Au départ, quand tout parent arrive à Marie-Louise, finalement, c'est une solution pour son enfant, pour l'avenir de son enfant qu'on cherche. Et après, dans un deuxième temps, on s'aperçoit que finalement, c'est une solution pour soi-même en tant que citoyen. Alors quand vous adhérez bien sûr à la proposition de ce projet collectif et de cette vision, Et c'est une proposition de citoyens du monde. Tout à l'heure, on parlait du vivre ensemble. Et donc, moi, j'ai trouvé que cette proposition de vivre ensemble, elle me plaisait vraiment très bien, autant pour mon fils que pour moi et toute ma famille, d'ailleurs. Et donc après, effectivement, dans mon quotidien, il a fallu que je me pose quelques questions, parce qu'effectivement, moi, je travaille à côté. Mais finalement, au travers des rencontres, des questions qu'il a fallu que je me pose, des compétences qu'il a fallu que j'acquière, ben, finalement, les compétences dont j'ai fait l'acquisition à Marie-Louise, je m'en sers chez un avionneur bien connu de la région de Toulousaine pour lequel je travaille. Et inversement, les compétences qui étaient les miennes issues du monde de l'industrie, que j'ai adaptées, bien entendu, ben, j'essaie de les amener à la Fondation Marie-Louise, la finalité étant que, quelque part, cette efficience, je prends beaucoup de précautions dans le mot que j'utilise, mais cette efficience qu'on essaie d'amener dans notre organisation, c'est avec la préoccupation essentielle, et la seule d'ailleurs, ce sont nos résidents au milieu, comment ça bénéficie à nos résidents.
Oui, alors je vais faire un autre lien un peu avec ceux qui, eux, ne sont pas bénévoles, qui sont salariés, donc c'est leur travail à plein temps. D'abord, pourquoi ils viennent chez vous et comment ils s'insèrent là-dedans? Ils n'ont pas les mêmes motivations, bien sûr, certains peuvent l'avoir, bien entendu. Mais comment vous arrivez à créer un esprit finalement qui soit cohérent avec l'objectif et la raison d'être de la Fondation dans l'ensemble de ses salariés?
Alors le monde du médico-social, effectivement, il a fallu apprendre, c'est un monde qui a ses codes, ses règles, et donc il a fallu que j'apprenne un peu à les comprendre, à les mesurer. Alors déjà, le monde du médico-social, c'est pas un monde dans lequel vous venez pour gagner de l'argent, passez-moi l'expression. On a des grilles salariales, ce sont des métiers qui sont compliqués, qui sont durs, qui demandent de l'engagement.
Beaucoup d'investissement, oui.
Beaucoup d'investissement, et ou à la sortie. Donc les gens que vous rencontrez, ils ne viennent pas pour s'enrichir. Ils viennent par contre parce que certains veulent donner du sens à ce qu'ils font. Pour d'autres, c'est une façon de se soigner eux-mêmes, en soignant les autres, finalement. Une vie qui a été faite de haut et de bas, et finalement, en soignant les autres, on se fait du bien à soi-même. Et donc, pour répondre à votre question, et quand on a compris que ces gens, quel que soit leur métier, des médecins, moi j'ai rencontré médecins, infirmières, tous les corps de métier, des gens formidables. 2020, le mot « engagement », j'aime bien regarder l'étymologie des mots, « engagement », c'est faire don de sa personne pour autrui. En 2020, j'ai compris ce que ça voulait dire, vraiment. Le mot « engagement », si certains l'utilisent le galvaude, dans le médico-social, il n'est pas galvaudé, ce mot. Donc, pour répondre à votre question, c'est « il faut donner du sens ». Il faut donner du sens à l'énergie, à la chaleur humaine qu'ils donnent à nos résidents. Et l'agrithérapie, c'était une des réponses, de dire, ben voilà, pour aller plus facilement à la ferme, pour aller, si c'était convaincu, pour faire en sorte de créer les conditions à ce que vous alliez donner du bien-être à nos résidents, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Voilà, dites-nous, et nous, après, ben, on se débrouillera. On parlait tout à l'heure de compétences, d'énergie qu'on va mobiliser, d'argent, vous l'avez dit, parce qu'à un moment donné, ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, mais des fois, quand même, il aide un peu. et donc, comment on crée ces conditions pour que vous y alliez, et finalement, que ben, si vous allez à la ferme, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la framboise, ben, que nos résidents soient bien, ils prennent l'air. Vous voyez, nous, le Covid, tout le monde partait le week-end, quoi. Et donc, nos résidents, c'est pareil, ils sortent de l'institution, ils vont prendre l'air, ça fait le plus grand bien.
Alors, justement, pour revenir là-dessus, sur ces métiers dont parlait Denis il y a un instant, est-ce que vous avez aujourd'hui des difficultés pour recruter?
Alors là, on touche à un point sensible qui est une de nos questions du moment, d'ailleurs, sur les plans stratégiques qu'on est en train d'élaborer. C'est le recrutement notamment des infirmières, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que on a entendu parler du Ségur de la santé, et aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, donc gestion privée à but non lucratif, on ne rentre pas encore, les établissements Marie-Louise ne rentrent pas encore dans le périmètre du Ségur. Et ce qui fait que, pour être très concret, aujourd'hui, vous prenez une infirmière qui travaille dans le public ou qui travaille chez nous, vous avez grosso modo 300 euros d'écart par mois. Donc moi, je me mets à la place d'une infirmière qui est... avec ses deux enfants, par exemple, et qui nous dit, moi, le projet Marie-Louise, il me touche, et la vie de vos enfants me touche, mais moi aussi, j'ai mes contraintes.
Bien sûr.
Et donc, aujourd'hui, c'est un de nos problèmes pour recruter des infirmières, parce que, bah, effectivement, il y a la situation dont je viens de parler.
Denis, une autre question.
Oui, donc, mes questions précédentes vous ont amené à parler naturellement de l'agrithérapie. Et moi, alors, je ne sais pas qui va répondre. Je me dis, c'est... Je comprends très bien que comment le fait d'être avec des animaux, des plantes, etc., peut amener une modification du psychique, mais peut-être aussi du physique. parmi les vos patients, j'allais dire. Mais médicalement parlant, est-ce que ça a été poussé? Est-ce que c'est prouvé? Et là, ça rejoint un peu les salariés et médecins. Certains peuvent être ouverts, d'autres pas, peut-être, je ne sais pas, à la gri-thérapie.
C'est Léa, peut-être, qui va répondre, puisque c'est vous qui avez porté le projet dans le cadre de vos études. Vous étiez, rappelez-nous, dans quelle école? Vous êtes diplômée de l'école d'ingénieurs de Purpan, c'est ça?
Oui, à Toulouse. Donc, alors pour revenir du coup sur votre question, ça a été montré effectivement scientifiquement qu'il y avait des bienfaits à la fois physiques, donc sur la motricité, parce qu'on va apprendre à faire des gestes, on va les répéter. Des bienfaits aussi qui sont sur la dépense physique ou sur la marche et la réalisation de gestes qu'on ne ferait pas dans un autre contexte. Après, il y a tout ce qui est bienfaits psychologiques, donc des bienfaits sur l'apaisement, des résidents qui peuvent être tendus, sur la valorisation de soi et l'estime de soi, parce que s'occuper des animaux, c'est quand même quelque chose qui demande des responsabilités. Et ça responsabilise beaucoup les résidents, ils se sentent utiles, et ils ont l'impression de participer, ou en tout cas de contribuer à des tâches qui ont du sens. Et ensuite, donc on a aussi des bienfaits qui sont sociaux, puisque dans une ferme, on travaille tous ensemble, on peut collaborer avec les camarades. Et puis justement, comme disait David tout à l'heure, favoriser cette mixité sur la ferme, ça permet la rencontre de profils qui sont différents, mais qui peuvent être tout à fait compatibles. Donc voilà. Et après, pour avoir rencontré certains professionnels du corps médical de la Fondation Marie-Louise, j'ai trouvé que les gens étaient assez ouverts. J'ai par exemple rencontré un kiné qui vient parfois à la ferme pour faire marcher les résidents. Donc il utilise la ferme comme support de balade, même si ce n'est pas forcément en lien avec l'activité agricole. Mais c'est ce contexte-là qui est utilisé pour s'occuper des résidents.
Vous avez fait un appel au crowdfunding pour vous aider? Ça a marché, David, peut-être? Ou c'est toujours en cours?
Ça se clôturait, me semble-t-il, hier soir, mais c'est allé au-delà de nos attentes. Mais tout à l'heure, je parlais des adaptations de Marie-Louise. Celle-là en fait partie, de comprendre un peu les codes de communication, les codes du don, on va dire la catégorisation sociale des donateurs, parce que chaque donateur a ses propres raisons, et il faut le comprendre, toutes ces adaptations. Et effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de bénévolat. Toute cette campagne a été conduite en partie avec des bénévoles et de notre côté, avec un levier que nous a permis, nous autorise le fait d'être fondation, c'est-à-dire des mécénats de compétences. Aujourd'hui, on a une entreprise sur Toulouse qui travaille avec nous sur du mécénat de compétences et qui nous amène justement ce domaine de compétences à porter ces projets de crowdfunding comme vous en parliez.
Et vous avez récolté combien, David?
Aujourd'hui, on est à pas loin de 20 000 euros.
20 000 euros, et ça va suffire pour mettre en place ce parcours, notamment ce parcours 500, hein, c'est ça?
Je laisse parler Léa, mais je pense que oui, largement par rapport à ce qu'on avait prévu, mais c'est très bien, on pourra faire même un peu plus que ce qu'on avait prévu. Mais je laisse Léa peut-être vous donner le détail.
Oui, donc là, c'est vrai que cette campagne, elle permettait de justement financer le parcours des 500, donc qui vise à la stimulation sensorielle de tous les résidents, qu'ils soient aptes à la marche, pas aptes à la marche, polyhandicapés ou pas. Donc c'est un parcours qui prendra la forme d'un petit sentier qui part en fait du corps de ferme, enfin de l'ancien corps de ferme, donc du bâtiment à la ferme, qui va jusqu'au potager. Et puis voilà, sur le parcours, on aura des framboises, des plantes grimpantes, des plantes odorantes, une pergola végétalisée qui pourront justement stimuler, éveiller les sens même des résidents les plus lourdement handicapés.
Denis, une autre question?
Oui, toujours sur la gri-thérapie. Donc Léa, probablement. On parlait tout à l'heure donc du développement que ça a amené, tout le bien que ça faisait. Et David a pris un exemple qui m'a un peu interpellé, la tomate. C'est-à-dire la tomate qu'on fait pousser et puis qu'après il faut cuisiner, quoi. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose effectivement de très fort, qui est comment aller de la petite graine jusqu'à sa salade de tomate ou même encore mieux. Et donc, est-ce que ça, c'est effectivement un élément qui amène aussi à réfléchir et à développer le cerveau, finalement, et développer une certaine logique de voir comment, comme tout dans la vie, d'ailleurs, évolue d'un bout à l'autre. Est-ce que ça amène grâce à ça des développements
Oui, bien sûr, effectivement, il y a également des bienfaits intellectuels sur les résidents, que ce soit en suivant ce cycle de la vie et pouvoir essayer de se rendre compte de la vision de l'alternance des phases qui vont se succéder pour arriver par exemple à un fruit, même si je pense que tous les résidents n'en sont pas vraiment conscients. Mais en tout cas, je pense que c'est déjà intéressant de les éduquer, en tout cas, ou de les sensibiliser à la nature et à ce qu'il y a de fondamental, en fait, une base de l'alimentation. Après, il y a d'autres bienfaits qui sont intellectuels, que ce soit par l'apprentissage de gestes du quotidien, l'apprentissage de choses sur la nature. Mais c'est vrai que pouvoir apprécier la saisonnalité sur une ferme, donc l'enchaînement des saisons, qu'est-ce qui se passe au printemps, quand la nature redémarre, qu'est-ce qui se passe l'été, quand la nature fructifie, et ensuite l'automne, quand la nature s'endort pour l'hiver, je pense que ça, c'est vraiment une notion qui est très intéressante.
Oui, bien sûr, mais que l'on soit en situation de handicap ou pas, dire que c'est la base de notre vie. Oui, David, vous l'achetez quelque chose.
Et si je peux me permettre, alors on parlait de cet apprentissage de compétences, je vais le résumer comme ça, mais tout à l'heure j'ai parlé de ce polyhandicap très lourd. Mm-hmm. L'agrithérapie, c'est aussi pour eux, et de rendre les conditions d'accessibilité à ce lieu, parce que j'en ai parlé, un des enseignements du Covid, c'est que tout le monde voulait partir à la campagne. On le voit aujourd'hui dans le marché de l'immobilier notamment.
Exactement.
Eh bien, nos résidents, là-dessus, ce sont des citoyens comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils sont en institution, mais quand ils ont l'occasion un peu de partir et d'aller prendre l'air, tout simplement, eh bien, qu'on soit ou polyhandicapé ou peut-être un peu moins handicapé, ça fait le même bien-être, simplement, après, différemment. Elle a parlé du sentier des senteurs, ben effectivement. Si cognitivement, ils ne sont peut-être pas en capacité d'être des acteurs du jardin, par contre, d'aller voir des feuilles qui bougent, des filets de lumière entre deux feuilles, des odeurs, et prendre l'air, c'est largement suffisant, c'est très bien.
Et David, on pourrait terminer là-dessus, sur la prise en charge du handicap. Ça reste parfois difficile en institution. Il y a combien de cas sans solution en Haute-Garonne, par exemple?
Alors aujourd'hui, je parle tout type de handicap, on est bien d'accord, tous les profils.
Oui,
aujourd'hui,
à fait.
On a environ 900 personnes. Alors adultes, je parle de personnes, 900 adultes qui sont sans solution de prise en charge et qui sont à domicile. Et je crois que même au plan national, il y avait le cas des autistes qui partaient sur la Belgique. Effectivement, c'est une vraie problématique, le nombre de places en institution. Et c'est pour ça que Marie-Louise essaie d'apporter son humble contribution à ce manque. Et c'est là notre engagement, c'est un peu comme
l'histoire. Qu'on vous écoute, qu'on entende votre voix, c'est ça aussi.
Comment ?
Qu'on entende votre voix.
Et qu'on entende notre voix et quelque part cette philosophie de se dire, bon, mais voilà, la situation elle est compliquée, mais elle n'est pas désespérée. Et si on se met collectivement tous ensemble, et chacun, on le disait tout à l'heure, amène ses compétences, toutes ces générations-là, des solutions existent, il suffit d'avoir un peu de bon sens paysan, c'est le cas de le dire avec l'agrithérapie.
Denis.
Oui, tout ce que j'apprends, parce que là j'apprends moi aussi depuis tout à l'heure, me fait penser à une chose qui est le type de formation qu'on peut donner. Alors, il y a probablement des polyhandicapés où on ne peut pas faire grand-chose, mais il y en a certains, ou certainement, j'ai connu des cas moi, où si on leur faisait une formation adaptée, on pourrait développer bien mieux leurs capacités cognitives et en faire des gens qui pourraient être pas forcément autonome, après ça dépend des cas, mais au moins très avancé, quoi. Et l'expérience de l'agrithérapie, mais je me dis vraiment ce raisonnement qu'on développe chez eux petit à petit, toujours de la graine de tomate à la tomate et à la cuisine, est-ce que c'est pas à partir de cette expérience-là, est-ce qu'on peut pas en tirer des méthodes de formation qui permettent effectivement de faire évoluer au moins une partie de ces personnes-là?
Alors c'est un des projets qu'on a derrière l'oreille, parce qu'à un moment donné, il faut quand même un peu organiser et planifier, mais c'est effectivement de travailler avec l'école de Purpan. Alors nous, pour nos résidents, ils n'ont pas le niveau cognitif, on va dire, pour accéder à ce genre de formation. Mmh. Par contre, je parlais tout à l'heure de cette diversité de la différence, et c'est certainement dans nos idées, à terme, d'ouvrir la ferme, justement, à ce genre de profil dont vous parlez, qui pourrait apporter, quelque part, cette compétence au fonctionnement de notre établissement, de notre ferme, pour que nous, nos résidents, donc plus lourdement handicapé, soit malgré tout attiré dans ce sillage et qu'il y ait vraiment cette cohabitation et où tout le monde trouve sa place.
Plein de projets, énormément de projets. Merci David Cambon. Merci Léa Chopin. Merci Denis Abril. L'adresse de votre site internet, du site internet de Marie-Louise.
Alors vous demandez à Google, vous tapez Marie-Louise même tout simplement et Google vous dira où ça se trouve parce qu'on a fait en sorte que ça monte en premier.
Merci à vous et merci de nous écouter sur Radio Présence. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radioprésence.com.